Eh bien, c'est le temps de la prédication et je change de casquette. Donc, maintenant, je vous apporte ce que le Seigneur a pu mettre sur mon cœur, mais bien au-delà ce que le Seigneur veut nous révéler à travers sa parole. Et je vous propose tout simplement de lire avec moi, en tout cas, je vais lire pour vous la parole de Dieu dans le livre de Malachie, chapitre 1, des versets 1 à 5. Message, parole de l'Éternel adressée à Israël par l'intermédiaire de Malachie. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé ? Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob ? Déclare l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. J'ai livré ses montagnes à la dévastation, son héritage au chacal du désert. Si Édom prétend « Nous sommes détruits, mais nous relèverons les ruines », voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. « Qu'ils construisent, je détruirai, je démolirai, et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront, et vous direz « L'Éternel est grand, même en dehors des frontières d'Israël ». Prions encore. Seigneur, nous venons de lire ta parole et nous te prions que ton esprit nous ouvre l'intelligence afin de comprendre ce que tu veux nous dire véritablement à travers ce texte, que tu nous accordes de pouvoir entendre ta volonté, d'entendre ton appel, notamment pour cette semaine, et que nous puissions être promptes à appliquer ta parole dans notre vie, à t'obéir et à faire ce qui t'est agréable. Merci encore, Seigneur, pour ta parole qui est une vraie nourriture pour nous. Nous te louons ensemble au nom de Jésus. Amen. J'aimerais retourner la question qui se trouve dans notre texte pour vous demander en quoi Dieu vous a-t-il aimé ? Certains diraient, c'est parce que Jésus est mort pour moi, pour me sauver. Bonne réponse. D'autres diraient, c'est parce qu'il a fait telle ou telle chose dans ma vie. Je pourrais vous raconter toutes les bénédictions que j'ai reçues de sa part. Bonne réponse. Mais si vous traversez des moments difficiles, des épreuves qui vous touchent ou qui touchent votre entourage, est-ce le signe que Dieu a cessé de vous aimer ? En réalité, nous ne pouvons pas toujours nous fier aveuglément à nos impressions. Nous ne pouvons pas toujours nous fier à notre manière d'interpréter la réalité. Et c'est plutôt dans la Bible, dans la parole de Dieu, qu'il nous faut chercher des réponses solides pour notre foi. Nous avons besoin que Dieu nous enseigne sur son amour. Lui seul est capable de nous dire combien il nous aime. Et nous commençons aujourd'hui une série de prédications sur le livre de Malachie. Je sais qu'un des groupes de maison l'a déjà étudié l'année dernière. Et j'espère pour ceux qui avaient participé à ces études-là que vous vous en souvenez encore. Alors pourquoi ce livre ? Pourquoi le livre de Malachie ? Eh bien, principalement parce que Malachie est le dernier prophète que Dieu a envoyé à Israël. Le dernier avant Jean-Baptiste, le dernier avant la venue de Jésus. Et entre Malachie et Jésus, eh bien, il y a un écart de plus de 400 ans. 400 ans pendant lesquels Dieu cesse de parler à son peuple. 400 ans de silence. Et donc, on peut se demander, mais qu'est-ce que ce dernier prophète que nous trouvons dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que ce dernier prophète peut nous enseigner sur les intentions de Dieu par rapport à son peuple ? Sur les intentions de Dieu par rapport à son peuple qui est loin d'être parfait, comme nous allons le voir dès aujourd'hui. Et selon les spécialistes, le thème central de ce livre, c'est le thème de l'Alliance. Dieu montre à son peuple qu'après tout ce qu'il a vécu, lui, le Seigneur, reste fidèle à l'Alliance qu'il a conclue avec Israël. Et la dernière précision concernant le livre de Malachie, c'est qu'il se compose de 6 oracles. 6 oracles, c'est-à-dire 6 messages avec des thèmes différents. Et nous étudierons cet après-midi le premier oracle. Et puis, au fur et à mesure, nous étudierons les autres oracles. Donc, 6 oracles dont nous étudierons le premier. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même rappeler ou évoquer des événements majeurs dans l'histoire d'Israël. Un rappel qui est nécessaire pour comprendre ce qui se passe au moment où Malachie parle de la part de l'Éternel. Et pour cela, j'ai préparé quelques cartes qui vont nous permettre de visualiser un peu la situation à l'époque. Je remonte très très loin, en 931 avant Jésus-Christ, à l'époque où le royaume, l'ancien royaume de David, l'ancien royaume de Salomon, ont été divisés en deux. Au nord, vous avez Israël, et puis au sud, vous avez Juda. Et puis, juste tout en bas, pour que vous puissiez aussi vous repérer, nous avons Édom, qui est mentionné dans notre texte, et qui est donc au sud de Juda. Ça, c'était en 931. Ensuite, par sa désobéissance en 722, à force d'être infidèle, eh bien, les Assyriens, un peuple conquérant, sont venus pour mettre fin au royaume d'Israël. Et donc, c'est la fin de ce royaume, et donc les habitants d'Israël sont déportés. Donc ça, c'est en 722. Le royaume d'Israël n'existe plus. Un peu plus tard, c'est au tour de Juda de subir le même sort, parce que tout aussi infidèle à Dieu, et Dieu prononce son jugement, et ce sont les Babyloniens qui arrivent et qui mettent fin au royaume de Juda entre 605 et 587. En fait, successivement, vous avez 3 prises de la ville de Jérusalem. Et en 587, la ville de Jérusalem est détruite et le temple est détruit. C'est la fin du royaume de Juda. Et c'est là que commence un long temps d'exil pour le peuple de Dieu, qui ne se retrouve plus donc sur sa terre d'origine. Mais beaucoup plus tard, en 539, alors peut-être juste avant, effectivement, pour visualiser un petit peu, si c'est encore assez visible, pour visualiser un petit peu l'étendue de l'empire, de chaque empire, du côté assyrien, vous voyez tout ce qui est un peu en bleu en haut, et qui montre toute l'étendue de leur empire, qui couvre bien sûr la partie qui concerne Israël. Et puis en dessous, en rose, l'invasion babylonienne, pareil, qui en fait a remplacé les Assyriens et qui occupe tout l'espace désormais. Mais en fait, en 539, eh bien, ce sont les Perses qui arrivent, encore un peuple conquérant, qui remplace les Babyloniens, qui fait tomber la capitale de Babylonie, c'est-à-dire Babylone, et qui remplace donc ce peuple qui occupe désormais l'Empire et notamment le territoire où se trouvaient les royaumes du Nord et du Sud. Et c'est un peu plus tard, en fait un an plus tard, que Cyrus prononce un édit pour autoriser les exilés à pouvoir revenir en Judée, dans cette partie-là qu'on appellera la Judée. Et ils seront autorisés notamment à reconstruire le temple. Et donc en 536, notamment, c'est le premier retour, il y a un premier groupe qui va de nouveau rentrer à la maison, en quelque sorte. Et ça va s'étendre jusqu'à 445. Et en fait, entre-temps, ils vont pouvoir reconstruire le temple, même si les travaux vont être interrompus pendant un moment. Entre-temps, il y aura un personnage que nous trouvons dans la Bible qui s'appelle Esdras, qui va venir également. Alors, avant de passer à cette slide, on retourne en arrière. Donc, Esdras, qui vient pour pouvoir s'occuper aussi du peuple de Dieu en Judée. Et puis, un peu plus tard, en 445, c'est Néhémie, un autre personnage qu'on trouve dans la Bible, c'est Néhémie qui va être gouverneur de Jérusalem et qui va aussi restaurer les remparts de Jérusalem. Et en fait, on peut montrer la slide suivante, juste pour vous montrer la taille à cette époque de ce qui reste du peuple de Dieu au niveau de son territoire. C'est-à-dire que l'encadré qui se trouve là-bas, vous aviez la carte d'origine avec l'ensemble du territoire, et puis en fait c'est une toute petite partie qui reste. Et c'est tout ce qu'ils peuvent occuper à ce moment-là. Donc, vous pouvez garder cela à l'esprit parce que ça va permettre de comprendre le contexte de Malachie. Et c'est donc dans les alentours des années 450 avant Jésus-Christ, dans cette période-là, estime-t-on, que Malachie exerce son ministère prophétique. Et vous imaginez bien, Malachie s'adresse à un peuple qui ne croit plus vraiment aux promesses de Dieu. À un peuple qui avait entendu les promesses avant l'exil, où les prophètes comme Ésaïe avaient annoncé qu'Israël connaîtrait, après l'exil, un temps de restauration. Alors peut-être pensait-il que ce temps de restauration, ce serait la nation d'Israël qui retrouverait tout son éclat, comme auparavant. Surtout après la reconstruction de Jérusalem, ça laissait de bons espoirs. Mais pourtant, à ce moment-là, comme nous le voyons sur cette carte, le peuple d'Israël est réduit à un petit territoire. Et en plus, sous domination perse, ils ne sont même pas autonomes. Enfin, pas totalement. Le peuple est découragé. Le peuple doute de son Dieu. Même s'il continue, de manière superficielle, à offrir des sacrifices. Et parmi les premiers mots du livre de Malachie, nous lisons une parole pleine d'amour. Pleine d'amour de la part de l'Éternel. « Je vous ai aimé. » Dieu assure à son peuple qu'il l'aime, que son amour n'a pas changé malgré les circonstances. Et l'occasion nous est donnée cet après-midi de méditer sur l'amour de Dieu, et en particulier sur l'amour de Dieu pour son peuple. Israël d'abord, qu'il a choisi bien des siècles auparavant, et plus de 400 ans plus tard, avec la venue de Jésus, c'est un nouveau peuple qui s'est constitué autour de lui, composé de juifs et de non-juifs, un nouvel Israël. C'est le temps de l'Église. Et de la même manière, Dieu aime l'Église, dont les chrétiens parmi nous font partie. Et il nous dit aussi, « Je vous ai aimé. » Cet après-midi, mes amis, à partir de ce texte, retenons ceci. Nous pourrons toujours compter sur l'amour de Dieu pour son peuple. Nous pourrons toujours compter sur l'amour de Dieu pour son peuple, quelles que soient les circonstances. Et pourquoi pouvons-nous toujours compter sur l'amour de Dieu ? Eh bien, principalement pour deux raisons. D'abord, que l'amour de Dieu explique son choix. L'amour de Dieu est la raison qui explique pourquoi il choisit telle ou telle personne. Et deuxièmement, que l'amour de Dieu est un amour concret. Et puis dans un troisième temps, nous verrons quelles sont les implications de cet amour de Dieu pour nous aujourd'hui. J'aimerais commencer donc par l'amour de Dieu qui explique son choix. Nous voyons dans les premiers versets de Malachie que l'amour de Dieu est mis en relation avec le choix de Dieu. Israël n'est pas devenu le peuple élu par hasard, mais l'Éternel l'a choisi. Et au premier verset, nous lisons « Message, parole de l'Éternel adressée à Israël par l'intermédiaire de Malachie ». Le premier verset nous indique que ce qui va suivre après ce premier verset est la parole de Dieu pour son peuple. Que dit l'Éternel à un peuple déçu, lassé par sa situation ? Eh bien, le verset 2, « Je vous ai aimé ». Ce message est pour le peuple d'Israël, pour tous ceux qui ont pu revenir d'exil, pour tous ceux qui vivent désormais sur la terre de leurs ancêtres, dans ce pays que Dieu leur a donné autrefois. En tout cas, qu'il a donné autrefois à Israël. Dieu dit à son peuple, « Je vous ai aimé ». En français, nous avons l'impression que cet amour appartient au passé et qu'il n'est plus actuel. Mais comme le montre le reste du texte, l'amour de Dieu n'est pas seulement un amour du passé, mais il s'exprime encore dans le temps présent. Et parce que Dieu est éternel, son amour l'est également. Et malgré cette déclaration incroyable de la part du Seigneur de l'univers, Israël questionne son Dieu. Et il le questionne en disant « En quoi nous as-tu aimé ?» C'est une question terrible de la part du peuple élu. En quoi nous as-tu aimés ? Pour celles et ceux d'entre nous qui sont parents, c'est comme si votre enfant vous demandait un jour « En quoi m'as-tu aimé ? En quoi m'avez-vous aimé ?» Et vous pourriez vous dire « Comment mon enfant pourrait-il demander une telle chose après tout ce que j'ai fait pour lui ou pour elle depuis sa naissance ?» De la même manière, pour celles et ceux qui sont en couple, comment réagiriez-vous si votre bien-aimé vous questionne lors d'un resto « En quoi m'as-tu aimé ?» Mais Dieu va répondre à la question de son peuple, bien que ce soit une question impertinente. Dieu va répondre à la remise en question de son amour. Et en premier lieu, l'Éternel revient aux temps anciens où le peuple d'Israël n'existait même pas. Dieu revient à l'époque des deux frères jumeaux d'Isaac et de Rebecca, Ésaü et Jacob, dans cet ordre-là. Parce que, bien qu'ils soient jumeaux, Ésaü est né le premier. Et dans l'ordre naturel et la culture de l'époque, c'est à lui que revenait l'héritage. Et Dieu répond donc à son peuple par une question rhétorique en lui disant « Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob ?» Bien sûr. Pourtant, ce n'est pas suivant cet ordre de naissance que Dieu fait son choix. Dans sa pleine liberté, Dieu choisit Jacob. Verset 2 « Cependant, j'ai aimé Jacob. » Et en lisant le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, nous savons que Jacob était loin d'être un ange. Il a honteusement trompé son père, qui ne voyait plus rien. Il s'est fait passer pour son frère afin d'obtenir la bénédiction. Nous connaissons cette histoire. Et pourtant, c'est bien lui, ce Jacob-là, que Dieu a choisi. Après Abraham, après Isaac, cela devait être Jacob. Et Malachi n'atténue pas ce qu'il dit au verset 3. « Et j'ai détesté Ésaü », verset 3. C'est l'Éternel qui parle. La version second 21, qui est la traduction que nous avons ici, a préféré le verbe « détester ». Mais en hébreu, il est clair qu'il s'agit du verbe « haïr ». Nous avons vraiment ici deux verbes opposés. Dieu dit avec clarté « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». Et ce qui paraît choquant à la première lecture mérite quelques explications. Vous imaginez bien que les spécialistes se sont un peu gratté la tête pour pouvoir comprendre comment comprendre ces versets, comment comprendre ces paroles de Dieu. Certains y voient une tournure qui est employée en hébreu pour indiquer une préférence. Lorsque Dieu dit « j'ai aimé et j'ai haï », il est en train de dire « j'ai choisi Jacob et non pas Ésaü ». Et donc l'accent est mis sur l'élection de Dieu. Et les Judéens de l'époque de Malachi devaient se rappeler que Dieu avait choisi d'abord Jacob, puis ses descendants, comme son peuple. En fait, Dieu est, le verbe haïr, Dieu est Ésaü dans le sens où il ne l'intègre pas dans l'alliance qu'il va conclure avec son peuple. Autrement dit, les descendants d'Ésaü ne seront pas le peuple d'où sera issu le Messie. Ce seront les descendants de Jacob. Mais, dans la grâce de Dieu, les descendants d'Ésaü pourront quand même un jour bénéficier du salut. Donc, dans ce sens-là, haïr signifie ne pas préférer. Quand Dieu dit « j'ai détesté ou j'ai haï Ésaü », il est en train de dire « je n'ai pas préféré Ésaü ». Mais d'autres voient un sens plus fort dans le verbe « haïr ». Et en fait, dans bien des textes, lorsque vous lisez la Bible, ce verbe est employé pour dire combien Dieu est, le verbe haïr, Dieu est le péché, Dieu est les pécheurs, ceux qui commettent le mal, ceux qui aiment la violence. Et pour preuve, je prendrai juste deux exemples dans les psaumes. Le psaume 5, où nous lisons « Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux, tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité ». Donc c'est ce même verbe qui est employé ici. Et au chapitre 11, l'Éternel sonde le juste. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. C'est écrit tel que vous le voyez. Et ces textes contredisent ce que nous entendons parfois. Dieu hait le péché, mais aime le pécheur. Dans un sens, Dieu désire sauver le pécheur, mais cela ne signifie pas qu'il ne regarde pas ses actes mauvais. Et la haine de Dieu, qui trouve son expression dans la colère, est sa juste réponse au péché que l'être humain commet. Alors nous ne devons pas être autant étonnés de ce verbe utilisé par rapport à Dieu. Mais quel que soit le sens que vous choisissez, il apparaît clairement ici que Dieu rappelle à Israël que dans son amour, il a choisi son ancêtre Jacob. Et dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul qui mentionne ce texte dans sa lettre aux Romains. Dans Romains chapitre 9, des versets 11 à 13. Les enfants, il s'agit de Ésaü et Jacob, les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient donc fait ni bien ni mal afin que le plan de Dieu subsiste conformément à son choix et sans dépendre des œuvres, mais de celui qui appelle. Quand il a été dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune. De même, il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. À la question, pourquoi Dieu a-t-il choisi Jacob et non Ésaü ? Je n'ai pas une réponse précise à vous livrer, parce que la Bible ne nous livre pas les raisons de ce choix, les raisons précises de ce choix. Paul nous dit juste ici que ce choix dépend de la volonté de Dieu, que ce choix fait partie de son plan et ne tient aucun compte des actes que Jacob ou Ésaü allaient faire dans leur vie. Après tout, l'un n'était pas meilleur que l'autre. Et j'évoquerai aussi un autre texte qui met en évidence la relation entre l'amour de Dieu et le choix de Dieu et qui concerne Israël. Regardez encore avec moi dans Deutéronome chapitre 7 ce que Moïse en tout cas rapporte au peuple. Ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. Donc là, Moïse s'adresse à Israël. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais pourquoi l'Éternel s'est attaché à vous ? Mais c'est parce que l'Éternel vous aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos ancêtres, qu'il vous a fait sortir par sa main puissante et vous a délivré de la maison d'esclavage, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. C'est parce qu'il vous aime qu'il vous a choisi. C'est difficile de trouver une autre raison à cela. Mais c'est ce que la Bible affirme. L'amour de Dieu précède son choix et explique son choix. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Jacob ? Par amour. Avant même qu'il ne fasse quelque chose de bien ou de mal. Et en choisissant Jacob, Dieu choisit également ses descendants. Et il fait alliance avec ses descendants. Et il s'engage à les aimer. Et les termes de l'alliance se résument ainsi. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. C'est cela que les contemporains de Malachie doivent se rappeler, que Dieu les a choisis par amour. Et en ce qui nous concerne, le parallèle est tout trouvé dans les paroles mêmes de Jésus. Quand Jésus dit à ses disciples, nous lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 15, d'abord le verset 9, « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. » Et curieusement, on retrouve cette formulation, « Je vous ai aimé. » Demeurez dans mon amour. Je ne sais pas si c'était vraiment intentionnel de la part de Jésus, mais on retrouve les mêmes mots. Je vous ai aimé. Et il s'adresse à ses disciples. Et au verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Même si ces paroles sont destinées premièrement aux disciples qui étaient avec Jésus, il ne fait aucun doute que Dieu aime aussi de la même manière son Église. Et par amour, il a choisi celles et ceux qui en font partie. Par amour. Nous venons de voir que la réponse de Dieu à Israël commence par l'évocation de l'amour que Dieu avait pour Jacob, l'ancêtre du peuple d'Israël. Et la deuxième partie de sa réponse concerne ce que Dieu a fait et fera dans l'histoire des Édomites les descendants d'Ésaü, ou d'Édom, qui est son autre nom. Dieu prouve son amour à Israël en montrant le sort d'Édom. Et c'est en cela que l'amour de Dieu est concret. Il est concret parce qu'il s'exprime à travers les actes que Dieu accomplit en faveur de son peuple. D'ailleurs, une des manières pour nous de connaître l'amour de Dieu est de reconnaître ce qu'il a fait pour nous. Pourtant, Dieu ne rappelle pas ici ce qu'il a fait pour Israël, comme par exemple lorsqu'il a fait sortir son peuple d'Égypte où il était esclave. Non, l'Éternel montre par des faits ce qui arrive à ceux avec qui il n'a pas fait alliance, ce qui arrive à ceux qui commettent le mal. Et dans la comparaison, Israël peut s'estimer heureux de ne pas connaître le sort des Édomites. Et je vous propose d'observer brièvement ce qui est dit à leur sujet au verset 3 et 4. « J'ai livré ces montagnes à la dévastation, son héritage au chacal du désert. Si Édom prétend, nous sommes détruits. » Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, « qu'ils construisent, je démolirai. » Et on les appellera « pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. » Le jugement de Dieu concernant Édom est clair. Ruine, dévastation, destruction. Tel est le sort de ceux qui commettent le mal devant l'Éternel. Et si vous lisez la Bible depuis un certain temps, vous savez que le sort des méchants n'est pas enviable. Ceux qui pratiquent l'injustice sont confrontés tôt ou tard à la justice de Dieu, au jugement de Dieu, d'un Dieu qui ne tolère pas le mal. Et nous trouvons chez un autre prophète, Abdias, qui a prophétisé bien avant Malachie, Abdias qui prophétise au sujet d'Édom et qui nous apprend en fait ce qu'ils étaient capables de faire, pour que nous puissions comprendre à quel point ils étaient méchants, et notamment envers Israël. Au jour où le malheur a fondu sur Israël, au jour où Jérusalem a subi une invasion étrangère, Édom s'est réjoui. Édom s'est moqué d'Israël. Édom en a profité pour aller piller Jérusalem, pour piller ses richesses. Édom s'est même tenu sur la route des rescapés pour les massacrer. Dieu n'a pas oublié de telles injustices. Et historiquement, au début du 5e siècle, Édom commence à perdre du terrain. Des peuplades envahissent le territoire édomite, que tout à l'heure nous avions vu en dessous sur la carte, au sud de Juda. Et ce sont les Nabatéens, cette peuplade qui arrive sur le terrain, les Nabatéens qui vont progressivement chasser les Édomites de leur territoire. Et derrière ce fait qui est historiquement reconnu, nous voyons la main de Dieu agir contre les descendants d'Ésaü. Eux qui étaient installés depuis si longtemps dans la région finissent par quitter leur pays. Et le verset 4 nous montre que les Édomites ne sont pas dans une attitude où ils regrettent leur méchanceté. Orgueilleusement, ils pensent pouvoir relever leur ruine. Ils pensent regagner du terrain. Mais le verdict de l'Éternel, et notez le titre qui accompagne l'Éternel, le maître de l'univers. Le verdict du maître de l'univers est implacable. Qu'ils construisent, je démolirai. Édom ne se relèvera pas de sa ruine. Et la suite de l'histoire le montre. Les Édomites vont se retrouver dans une autre partie de la région. Ils vont être chassés de leur terre et vont se retrouver dans cette région qu'on appelle l'Idumée. Et l'Idumée se trouve très exactement au sud du royaume de Juda à ce moment-là, ou plutôt de la Judée à ce moment-là. Mais vous voyez que par rapport à la carte initiale, ils sont légèrement décalés. Ils ne vont plus retrouver leur terre. Et en fait, successivement, ils vont se retrouver sous la domination des Perses, des Grecs, des Juifs, puis des Romains. C'en est fini de la nation d'Édom. Et avec tout ça, en quoi Dieu a-t-il aimé Israël? On peut se poser la question en lisant ces versets. En quoi Dieu a-t-il aimé Israël? Eh bien, en fait, en comparant la situation des deux peuples, nous voyons clairement comment Dieu a préservé Israël. Comment il l'a préservé par rapport au sort d'Édom? Et pourtant, nous ne l'oublions pas, Dieu a aussi exercé son jugement contre son propre peuple. Et nous l'avons vu avec le châtiment de l'exil, avec la destruction de Jérusalem. Mais malgré cela, Dieu a permis aussi à son peuple de revenir dans sa terre, à relever ses ruines. Dieu a permis qu'il reconstruise le temple. Et d'une manière évidente, même pour un historien moderne, les faits nous montrent qu'Israël a pu survivre là où Édom a été complètement évincé. Et cela ne s'explique que par l'intervention souveraine de Dieu. Si Israël continue de survivre dans cette période, c'est parce que Dieu aime son peuple et a prévu que de ce peuple naisse Jésus, le Messie. Dieu est fidèle à ses promesses et malgré l'imperfection, malgré les péchés de son peuple, Dieu accomplira ce qu'il a promis et ce qu'il a prévu. Et lorsque les Israélites verront que Dieu est effectivement avec eux, ils pourront dire au verset 5, « L'Éternel est grand, même en dehors des frontières d'Israël. » L'Éternel est grand, il peut intervenir partout et c'est quelque chose qu'Israël doit encore apprendre. Dieu est souverain, même en dehors des frontières d'Israël. Et après notre passage, Malachi évoquera la grandeur de Dieu qui sera reconnue non seulement par son peuple, mais par toutes les nations. Et vous verrez cela la semaine prochaine. Ainsi, nous venons de voir que l'amour de Dieu envers son peuple s'est manifesté à travers des actes, des événements que Dieu a conduits. Alors qu'en est-il finalement pour nous? Qu'en est-il de l'amour de Dieu pour nous après avoir lu ce texte? L'amour de Dieu est un thème qui parcourt toute la Bible. Et pourtant, il n'est pas si facile d'en parler. Le théologien Donald Carson a écrit un petit livre intitulé « La doctrine difficile de l'amour de Dieu ». Et dans ce livre-là, il évoque entre autres les différentes manières dont Dieu parle de son amour dans la Bible. Différentes manières. Et si vous voulez en savoir plus, c'est mon conseil de lecture pour l'été, si vous savez lire en anglais, parce que c'est uniquement en anglais. Parler de l'amour de Dieu n'est pas facile. Dire que Dieu nous aime est vrai, mais c'est insuffisant pour comprendre en quoi consiste son amour. Et au risque de vous frustrer, je dirai encore une fois qu'il ne nous est pas possible de saisir entièrement ce que signifie l'amour de Dieu pour des créatures si petites et si mauvaises que nous sommes. Il y a une distance entre Dieu et nous que rien ne peut combler. Et pourtant, dans notre texte, Dieu a déclaré à Israël, à l'époque de Malachi, qu'il l'aime. Après tous ces siècles d'histoire, Malachi rappelle à son peuple que Dieu l'aime toujours, que Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu a fait un choix sur lequel il ne revient pas. Son amour n'est pas capricieux. Son amour ne change pas malgré l'infidélité du peuple. Son amour est éternel. Dieu a fait alliance avec Jacob, l'ancêtre du peuple d'Israël. Dieu a fait alliance avec Israël. Il s'est engagé avec son peuple et c'est pourquoi il a subsisté jusque-là. Même s'il ne retrouve pas toute son autonomie. Et de la même manière, Dieu aime le peuple de la Nouvelle Alliance. Dieu aime le peuple qui est constitué de celles et ceux qui ont placé leur confiance en Jésus. Dieu aime son Église qui regroupe de près ou de loin les disciples de Christ. Dieu vous aime si vous faites partie de ses enfants. Et par Jésus, vous avez obtenu sa faveur. J'ai obtenu sa faveur. Et cela ne dépend pas de ce que nous avons fait depuis que nous le connaissons. Tout le bien que nous pouvons faire ici-bas ne peut justifier le choix de Dieu. Tout simplement parce que, à côté du bien que nous faisons, nous continuons à faire le mal. Donc Dieu ne peut pas prendre de tels critères pour nous choisir. Ce ne sont pas nos œuvres qui peuvent nous faire gagner sa faveur, tout comme pour Jacob, tout comme pour le peuple d'Israël. Le choix de Dieu ne dépend pas de nos œuvres, mais uniquement de sa volonté libre et souveraine. Il nous aime sans que nous puissions en trouver les raisons. Et c'est à nous de l'accepter. C'est à nous de le reconnaître et d'être reconnaissant. Et le grand prédicateur anglais Charles Spurgeon a dit des paroles que nous pourrions aussi nous approprier. Il dit ceci, « Je suis certain que si Dieu ne m'avait pas choisi, je ne l'aurais jamais choisi moi-même. Et je suis sûr que qu'il m'avait choisi avant ma naissance, sinon il ne m'aurait jamais choisi après. Et il devait m'avoir choisi pour des raisons que j'ignore. Parce que je n'arrive pas à comprendre en moi-même pourquoi il a jeté son regard sur moi avec cet amour particulier. » Nous ne pouvons pas trouver de raison au choix, à l'amour de Dieu. Si Dieu nous dit aujourd'hui « Je vous ai aimé », notre réponse ne sera pas comme celle du peuple « En quoi nous as-tu aimé ?» mais plutôt « Merci Seigneur de nous avoir aimés. » Et c'est en acte que Dieu nous a aimés. Dans notre texte, Édom a connu le jugement de Dieu. Il est resté un peuple contre qui Dieu est irrité pour toujours. Et ce jugement n'est qu'une ombre par rapport au jugement final où celles et ceux qui ont refusé de placer leur confiance en Dieu, en Jésus, connaîtront la séparation avec Dieu à jamais. En quoi Dieu nous a-t-il aimés ? En nous faisant échapper à ce châtiment éternel, grâce au sacrifice de son Fils unique, Jésus-Christ. C'est à la croix que Dieu nous a montré son amour, en mourant pour les péchés que nous avons commis. En mourant pour nos péchés, Jésus paye pour nous et nous fait gagner la faveur de Dieu, de telle sorte que nous ne connaîtrons pas le sort d'une séparation éternelle avec Dieu. Édom est le peuple contre qui Dieu est irrité pour toujours, mais l'Église est le peuple en qui Dieu prend plaisir pour toujours, à cause de Jésus-Christ. Et en fait, dans un certain sens, le sort de ceux qui ont rejeté Jésus durant leur vie, le châtiment éternel, nous rappelle à quoi Dieu nous fait échapper, par amour pour nous. Et à cause de cela, nous pouvons toujours compter sur l'amour de Dieu qui nous gardera jusqu'au bout. Et je terminerai par ce merveilleux texte que l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens. Dans Éphésiens chapitre 1, les versets 4 à 6. En lui, c'est-à-dire en Christ, en lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Dans les moments de doute qui peuvent arriver quand nous sommes chrétiens, souvenons-nous que c'est en Jésus que Dieu nous a choisis bien avant la création du monde. Et ça, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et il nous a choisis, pourquoi ? Parce qu'il nous aime depuis toujours. Alors, comme le suggère la fin de ce passage-là, célébrons la gloire de sa grâce. Nous ne sommes pas méritants, mais combien nous sommes reconnaissants. Je vous ai aimé. C'est vraiment le début du livre de Malachie. Et ces mots sont adressés à un peuple découragé par sa situation et qui a oublié qui il était vraiment, le peuple de Dieu. Le peuple que Dieu ne reniera pas, le peuple de l'Alliance. Et peut-être que parfois, nous oublions aussi qui nous sommes en tant que chrétiens. Nous oublions que nous faisons partie du peuple de la Nouvelle Alliance. Nous oublions que nous pouvons toujours compter sur l'amour de Dieu pour son peuple. C'est un amour éternel. C'est un amour constant. Et vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul est si sûr quand il dit que rien, absolument rien, dans cet univers ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est aussi notre certitude cet après-midi. Alors même que nous pouvons vivre des épreuves très dures, mais cela n'enlève en rien l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ, et particulièrement lorsque Jésus a donné sa vie pour nous. Et si certains d'entre vous ont trouvé que je parlais un peu trop de l'amour de Dieu pour son peuple, excluant en quelque sorte le reste du monde, j'aimerais simplement dire que l'amour de Dieu ne se résume pas à ce que nous avons lu dans notre texte. Nous n'avons pas fait le tour de l'amour de Dieu à partir de ce texte de Malachie. Mais je peux affirmer avec d'autres textes bibliques que Dieu vous aime, même si vous ne faites pas partie du peuple de Dieu. Dieu vous aime et vous appelle à faire partie de son peuple en vous en remettant à la solution que Jésus a apportée par rapport au péché qui nous sépare de Dieu. Et considérez qu'en faisant partie de son peuple, qu'en devenant chrétien, vous connaîtrez d'autant plus ce qu'est l'amour de Dieu, ce qu'est l'amour de Dieu décrit dans le texte d'aujourd'hui. Prions ensemble. Notre Père céleste, nous nous soumettons à ta parole et à ce qu'elle affirme clairement. Et nous croyons que ton amour est un amour qui nous dépasse, que nous ne pouvons pas comprendre, que nous ne pouvons pas comparer réellement à l'amour que nous pouvons avoir les uns pour les autres. Ton amour est bien supérieur. Et ton amour explique le choix que tu as pu faire. Et de nouveau, c'est un choix que nous ne pouvons pas expliquer. Et ton amour est concret. Il est tellement concret que tu l'as démontré à la croix. Que Jésus est mort pour nos péchés, à notre place. Qu'il a pris notre condamnation pour que nous ne soyons pas condamnés. Quelle preuve d'amour, Seigneur ! Il n'y a rien au-dessus de cela. Et ce n'est qu'avec reconnaissance que nous pouvons accepter ta grâce et te dire merci, merci de nous avoir appelés, merci de nous avoir attirés à toi, merci de nous avoir permis de faire partie de ton peuple, celui que tu aimes et que tu aimeras pour toujours. Nous te louons parce que nous pouvons toujours compter sur ton amour, sur l'amour que tu as pour ton peuple. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.